7h17, bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
C'est quoi ce projet de Mme Anglade là, sur l'économie collaborative?
Bon, premièrement, c'est quoi l'économie collaborative?
Ouais, c'est
quand on fait des échanges pair à pair. Tu sais, quand on passe par exemple, une application, comme soit Uber ou comme sur Airbnb, et qu'on trouve un client avec un fournisseur de services ou de biens, et puis on fait une transaction à des biens, à des fins mercantiles ou non, hein, tu peux le faire bénévolement, mais c'est d'économie collaborative. Mais tout ça vient complètement en parallèle avec l'économie qu'on a créée. C'est-à-dire que nous, on se disait, bon, c'est facile, on réglemente les adresses, on réglemente les espaces physiques et ça règle le problème. Par exemple, un restaurant. Tu sais, depuis le début, on dit un restaurant, paye des taxes dans un local zoné commercial, il y a des règles établies, il y a des retenues à la source, tout ça. Et là, tu arrives avec des applications qui court-circuitent tout ça. Donc, moi, mettons, là, Paul, j'ai un talent culinaire, puis je décide de faire du craft dinner les vendredis à des gens pour 10$ et offrir ça une fois par semaine. Est-ce que j'ai un modèle d'affaires qui est d'économie collaborative ou je dois être supervisé par le MAPAC? Est-ce que je dois payer des taxes d'affaires? Est-ce que ma maison étant pas zonée commerciale, j'ai le droit d'en faire l'activité? Combien de fois par semaine? Où commence, où termine? C'est ça le problème.
Au niveau des transports. Autrement dit, ils veulent pas se retrouver avec une autre crise Uber, là.
En fait, la crise Uber, ils l'ont pas encore gérée.
Donc,
effectivement, au niveau du logement, du transport, de l'alimentation, de l'équipement, tu sais, une bibliothèque qui loue des outils sur Internet ou qui fait de la location. Moi, dans mon garage, j'ai des outils, j'ai rénové. Si je les loue, je fais-tu de l'économie?
Non, mais partage? Je voyais en France, il y a une économie de partage là, qui consiste à, mettons que tu t'achètes un meuble chez Ikea puis t'as pas le goût de le monter, t'as une application qui existe puis il y a quelqu'un qui va venir le faire ou quelqu'un qui va faire, je sais pas moi, des mini-travaux d'entretien.
Un homme à tout faire qu'on appelait à l'époque, ouais, là, ou une femme à tout faire, ben là, et c'était pas déclaré, tout ça. Et là, on se dit, ce serait le fun d'aller taxer ça.
Ben, c'est tout ça là.
Mais le groupe de travail va regarder un, comprendre ce que c'est, voir l'expertise, bon, où est-ce qu'on peut agir, faire une veille aussi, parce que là, il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Mais on dit qu'on veut devenir chef de file. Bon, ben, premièrement, pour être chef de file, il faudrait commencer à agir. Parce que d'habitude, quand t'es le dernier wagon, les derniers à regarder ça, on n'est pas chef de file. Mais on a engagé Guillaume Lavoie. Ça, c'est le gars que Projet Montréal trouvait qui calculait trop, tu sais. C'est le gars qui réfléchissait un peu, qui faisait des conférences sur l'économie collaborative. Ben là, il va l'appliquer. C'est intéressant parce qu'il a beaucoup réfléchi là-dessus, parlait beaucoup d'Uber. Donc, j'ai hâte de voir ça, mais je rappelle deux rapports sur les tablettes, Paul. Le premier, c'est le rapport Bouchard-Taylor. Et le deuxième, qui est sur les tablettes, pas pire aussi, c'est la commission sur la fiscalité de M. Godbout.
Puis, je pourrais te rejoindre un autre rapport, moi, le rapport Pronovo sur l'agriculture.
Tu vois, il y en a plein.
Il a été déposé à 4h un certain après-midi, puis à 4h05, il était sur une tablette.
Puis à 90, il y avait de la poussière. Ouais. Donc, ces rapports-là, il faut les faire. C'est bien qu'on les fasse, c'est bien qu'on étudie quelque chose. Mais une fois qu'on a des recommandations, qu'il y a des gens qui sont penchés sur le cas, il faut aussi avoir le courage politique de les appliquer et pas seulement de faire une annonce pour dire qu'on regarde ça.
Parfait. Premier bénéfice pour Twitter.
Ouais, ça, Paul, c'est ce que j'appelle des bénéfices comptables parce que Twitter faisait pas d'argent. Et là, tu comprends que ça tapait du doigt, du pied, le monde disait « Hey, qu'est-ce qui se passe? On fait pas de bénéfice. » Fait que Twitter dit « Pas de problème. Investisseurs, vous voulez un bénéfice? Pas de trouble. Nos nombres d'abonnés plafonnent. On a de la misère à croître. Pas de problème. On va couper les dépenses. On va faire de l'austérité. Ou de la gestion optimale des dépenses. » Donc, je suis allé voir les états financiers. Oui, on a 91 millions de bénéfices pour le trimestre dernier. Mais si je regarde au niveau de recherche et développement, d'un trimestre l'année passée équivalent à maintenant, on a baissé d'à peu près 68-69 millions de dépenses. On va plus loin un peu. Vente et marketing, on est passé de 261 millions à 190 millions. Finalement, on a coupé dans le développement et le marketing à très court terme. On a créé un bénéfice, Paul. On a créé un bénéfice en coupant dans les dépenses. Mais est-ce que ça assure la viabilité de Twitter à long terme, le fait de couper dans recherche et développement ou dans les dépenses et dans les ventes et marketing? J'en doute. Donc, c'est un bénéfice court terme pour une vision court terme, mais à long terme, on n'a pas plus d'abonnés. Oui, on a un petit peu plus de revenus. C'est intéressant, mais l'action a augmenté. Évidemment, l'investisseur voit ça. Il dit, enfin, des bénéfices pour Twitter. Hein? Donc, l'action depuis un an est montée de 94%. Hier, super belle montée aussi. Mais dans le fond, l'action est rendue à 30$. Mais ce n'est pas encore un modèle d'affaires qui se tient pas.
Non, ben en tout cas, c'est fragile, c'est ça?
Oui.
OK. Es-tu inquiet? Non, sans doute, là. Mais donc, la descente hier, encore une fois, pour les indices boursiers, puis ce matin, l'Asie, l'Europe, un petit peu ralenti. C'est quand même une grosse semaine, là.
Oui, c'est une grosse semaine parce que c'est des coûts. Mais on a perdu cette habitude-là. Tu te souviens, on parlait du Brexit, on parlait de la dette grecque, on parlait
de la
croissance chinoise au début quand on a commencé à travailler ensemble. Et puis, ben, les marchés bougeaient vite. On était habitués. Mais on a perdu ça, hein. L'habitude. On est dans notre confort. C'est comme un peu si t'es en maison. t'as un beau système de son, tout ça, puis là, tu retombes en appartement. T'avais oublié que t'avais un terrain puis une piscine, que c'était pas de l'acquis pour tout le monde. Et c'est un peu la même chose. On retourne dans nos habitudes, mais ça va revenir, Paul. Et Paul, pour le McSwing Gate, là.
Oui.
Je vais te faire un petit suivi. Là, je m'en vais à Valleyfield aujourd'hui.
À Valleyfield, ouais, OK.
Ouais, dans mon école secondaire. Puis je vais passer probablement devant le Casse au Blanc.
OK.
Et je vais peut-être aller manger des rondelles d'oignon avec de la sauce aux cerises.
Parfait.
Si quelqu'un me voit, juste être sûr que ça crée pas de scandale, Paul. Parfait. Je vais dépenser 4$.
Incroyable, hein? Tu es suivi maintenant.
Je sais.
Merci. Bon week-end et salutations aux gens de Valleyfield. Il est 7h23.